de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Taïwan délivre une autorisation d'urgence pour le vaccin AstraZeneca. La Nouvelle-Zélande a lancé un programme de vaccination samedi. Les États-Unis se déclarent préoccupés par les informations selon lesquelles des troupes birmanes auraient tiré sur des manifestants. Le gouvernement formera une holding géothermique cette année. Waste Care Day, ou la Journée nationale de la gestion des déchets, en élan pour développer une filière de recyclage intégré. Chers auditeurs, voici le journal en complet. Les autorités de Taïwan ont délivré samedi un permis d'utilisation d'urgence pour le vaccin COVID-19 fabriqué par AstraZeneca avec l'Université d'Oxford. En décembre 2020, Taïwan est d'accord pour acheter près de 20 millions de doses du vaccin COVID-19, dont 10 millions de doses d'AstraZeneca, et 4,76 millions de doses de la coopération mondiale pour l'achat de vaccins COVAX. Le directeur général de l'Administration des aliments et des médicaments de Taïwan, Wu Shumi, a déclaré que le permis d'utilisation d'urgence avait été délivré samedi. Si le processus se déroule bien, la vaccination commencera une semaine après l'arrivée du premier paquet de vaccins à Taïwan. 200 000 vaccins fabriqués par AstraZeneca obtenus auprès de COVAX arriveront à Taïwan la semaine prochaine. La Nouvelle-Zélande a commencé samedi son programme de vaccination contre la COVID-19 avec le vaccin de Pfizer-BioNTech après qu'un groupe de vaccinateurs à Auckland a été vacciné la veille. Les vaccinations de masse ont été commencées samedi sur les agents de frontières néo-zélandaises et les travailleurs des installations de quarantaine. Le ministre néo-zélandais de la Santé, Ashley Bloomfield, a déclaré samedi le lancement du plus grand programme de vaccination de l'histoire de la Nouvelle-Zélande, la vaccination des frontalières. Une étape importante pour protéger tout le monde en Nouvelle-Zélande. Ce pays prévoit que la vaccination nationale, couvrant une population totale de 5 millions d'habitants, durera une année entière. Les États-Unis se sont déclarés préoccupés par les informations selon lesquelles les forces de sécurité du Birmanie avaient ouvert le feu sur des manifestants et continué à détenir et à harceler des manifestants et d'autres personnes. La déclaration a été transmise par un porte-parole du département d'État américain, Ned Price, samedi dernier. Price a déclaré que les États-Unis soutenaient le peuple birman. Deux personnes ont été tuées samedi dans la deuxième ville du Birmanie, Mandalay, lorsque la police et les soldats ont ouvert le feu pour interrompre les manifestations contre le coup d'État militaire du 1er février, le jour le plus sanglant de plus de deux semaines de manifestations. La prise de contrôle du pouvoir civil par l'armée a été critiquée par les dirigeants politiques mondiaux, notamment le pape François et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le président américain Joe Biden a répondu au coup d'État en disant qu'il ne fait aucun doute que dans une démocratie, le pouvoir militaire ne peut pas annuler les élections. Le gouvernement, à travers le ministère de BUMN, formera une holding géothermique. Cette holding regroupera les actifs détenus par PLN, Pertamina et Geodipa pour devenir une grande entreprise active dans le secteur de la géothermie. Le vice-ministre de BUMN, Pahala Mashuri, a expliqué dimanche que le plan de création d'une holding géothermique vise à accroître la synergie des BUMN qui ont des zones de travail géothermiques. À l'avenir, grâce à cette holding, le travail opérationnel peut être plus efficace. D'une part, il est possible d'étendre l'exploration géothermique pour pouvoir tirer le meilleur parti du potentiel domestique. Plus tard, des synergies optimales seront formées dans le développement, le forage, la transmission d'énergie et le financement. Il a également expliqué qu'avec le holding géothermique, l'Indonésie disposera de la plus grande entreprise géothermique du monde. Le membre de la commission 4DPR-RI Johan Rosihan a déclaré que la commémoration de la Journée nationale de la gestion des déchets le 21 février est un élan pour développer l'industrie du recyclage et l'application de la gestion intégrée des déchets. Johan Rosihan, dans une déclaration écrite à Jakarta dimanche, a déclaré qu'il était nécessaire de coopérer intersectoriel de divers parties pour le succès de la gestion des déchets. À partir de l'utilisation des déchets recyclés, de l'industrie du recyclage des déchets et de la commercialisation de ces produits recyclés. Selon Johan, l'engagement de toutes les parties est nécessaire pour qu'il puisse avoir un impact sur les sources de revenus économiques tout en maintenant la durabilité environnementale. C'est si important, étant donné le nombre croissant de piles de déchets en raison de la croissance démographique et des changements dans le mode de consommation qui nécessitent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement. C'est tout le journal d'aujourd'hui. voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le KPK et SFO britannique renforcent sa coopération sur le traitement des affaires de corruption ». La Commission de l'éradication de corruption, ou en indonésien « Komisi Pemberantasan Korupsi » ou abrégé en « KPK » et le « Serious Fraud Office » ou abrégé en « SFO britannique » ont convenu de poursuivre leur coopération dans le traitement des affaires de corruption. Le président de KPK, Firly Bahuri, a déclaré lors d'une réunion virtuelle avec SFO mercredi dernier que le crime de corruption actuel se poursuit dans tous les pays, de sorte que le KPK ne peut pas travailler seul et doit favoriser la coopération au pays ou bien à l'étranger. Par conséquent, selon lui, cette collaboration sera bénéfique dans l'échange des données, le traitement des dossiers et même l'augmentation de la capacité des employés de KPK. Pendant ce temps, la directrice de SFO, Lisa Ossowski, s'est félicitée de la poursuite de la collaboration avec le KPK. Il a dit que jusqu'ici, le mémorandum d'accord qui avait été convenu avait abouti à un excellent travail d'éradication de la corruption. Il a dit qu'il comprenait que le KPK faisait face à un défi très difficile. Dans des conditions difficiles, comme la pandémie actuelle, il y a plus de tentations de commettre des crimes et de profiter des faiblesses existantes. Au cours de la réunion, Lisa a également proposé de partager ses expériences avec l'Indonésie concernant l'accord de poursuite différée ou Deferred Prosecution Agreement ou DPA, ou la suspension des poursuites. Actuellement, l'Angleterre a mis en œuvre un DPA et l'Indonésie n'a pas mis en œuvre cette règle. Outre les deux responsables institutionnels, Strategy and Policy Division, SFO, Zoe Woodrow, a également assisté à la réunion. Pendant ce temps, du KPK, l'adjoint à l'information et aux données, Mohamed Hadiana, l'adjoint à l'exécution, Karyoto, et le directeur des enquêtes Setio Budianto était également présent. Le KPK et SFO britannique ont signé un protocole d'accord le 7 juin 2010. Plusieurs protocoles d'accord ont été mis en œuvre, notamment depuis 2010 à 2016. Les enquêteurs du KPK et de SFO ont mené une enquête parallèle dans le cas de l'acquisition de tétraéthylide ASA Pertamina. À cette époque, les suspects ont été reconnus coupables et la société britannique Innospec a été condamnée à une amende de 12,7 millions de dollars américains. De plus, depuis 2017, à ce jour, les enquêteurs du KPK, du SFO et du Bureau d'enquête sur les pratiques de corruption ont échangé des informations et des données dans le traitement des affaires de corruption pour l'acquisition d'avions et de moteurs d'avions à Airbus, SAS et Rolls-Royce, ASA Garuda, Indonesia. Puis en 2019, SFO a animé une session de partage de connaissances dans le cadre d'une étude comparative menée par des collaborateurs de KPK, notamment liée au développement des unités d'analyse de l'informatique et des juriscomptabilités.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 21 février. On commence par le 21 février 1949, la mort de Tan Malaka. Tan Malaka, ou Ibrahim, le titre de Datuk Sultan Malaka, est un combattant pour l'indépendance indonésienne, également fondateur du Parti Mourba, et est l'un des héros nationaux indonésiens. Après l'indépendance indonésienne, Tan Malaka est devenu l'un des pionniers de l'aile gauche. Il a également été impliqué dans les événements du 3 juillet 1946, une tentative de prise de pouvoir ou un coup d'État de l'opposition, le groupe de lutte unie, contre le gouvernement du cabinet Syahrul II en Indonésie. Il a formé l'Union de lutte et il aurait été le cerveau de l'enlèvement de Sultan Syahrul, premier ministre à cette époque-là, et pour cette raison, il a été en prison sans avoir été jugé pendant 2 ans et demi. Décret présidentiel numéro 53, qui a été signé par le président Sukarno le 28 mars 1963, a désigné Tan Malaka comme un héros national. La suite, le 21 février 1972, Luna 20 atterrit sur la Lune. Luna 20 était la deuxième plus réussie des 3 missions d'atterrissage lunaire de phase spatiale de l'Union soviétique. Luna 20 est entrée en orbite lunaire le 18 février 1972 et le 21 février 1972. Luna 20 a atterri sur la Lune dans une zone montagneuse connue sous le nom de Terra Apollonius. Lorsqu'il est revenu sur Terre le 22 février 1972, Luna 20 a réussi à apporter 30 grammes d'échantillons de sable et de roches lunaires collectées dans une capsule scellée. Luna 20 a finalement réussi à atterrir en Union soviétique le 25 février 1972. Le 21 février 2000, la création de la Journée mondiale de la langue maternelle. La Journée mondiale de la langue maternelle est célébrée tous les 21 février. Cette activité vise à accroître la sensibilisation à la diversité linguistique, à la culture et au multilinguisme. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le UNESCO, a institué la Journée mondiale de la langue maternelle le 17 novembre 1999 et a été officiellement adopté à l'Assemblée générale des Nations Unies par la résolution publiée en 2008. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Beri pujian, kita menatap awan. bawah hujan, langit tetap benderang, pelangi pun datang menjelang. Kita merayu malam, jangan sedih tenggelam, bulan sabit beri senyuman. Kita meminta waktu, satu hari berhenti, satu masa dia
chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie. Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « La vaccination des athlètes COVID-19 a été reportée ». Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé que la vaccination COVID-19 prévue pour les athlètes sera annulée cette semaine. Le secrétaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, Gatot S. Dewa Broto, a déclaré que la décision avait été prise après une réunion de coordination avec le ministère de la Santé et des représentants des trois sports, le badminton, le football et le basketball, mercredi le 17 février. Au cours de la réunion, la volonté du ministère de la Santé de fournir le vaccin COVID-19 aux athlètes qui concurrent à l'étranger a été réaffirmée. Gatot S. Dewa Broto a expliqué que ce retard a vu le développement des athlètes et des survivants de C. Selon Gatot, dans le développement des rencontres avec les athlètes et les officiels, il y avait une étape de plus que les athlètes sportifs devaient faire. L'un d'eux est de s'assurer qu'il y a des athlètes qui sont des survivants de COVID-19. Pour cela, il doit être discuté en interne. Il doit aussi y avoir une socialisation dans les sports internes. Au départ de la réunion, le ministère de la Jeunesse et des Sports a convenu avec les sports de reporter le calendrier d'administration des vaccins aux athlètes. Cependant, Gatot a souligné que le retard du calendrier n'était pas une faute sportive. Gatot S. Dewa Broto a ajouté la mise en œuvre de vaccins dans les trois sports, car c'est très urgent. Comme badminton, il y aura le Swiss Open qui partira fin février, puis pour le All England, Au départ, le 9 mars, le basketball a une pré-qualification. Selon le plan, tous les athlètes qui sont membres du centre d'entraînement national pour les championnats étrangers et nationaux seront vaccinés contre le COVID-19 afin de maintenir l'immunité et d'empêcher la propagation lors de la participation aux championnats internationaux et nationaux, y compris les Jeux olympiques, les Jeux asiatiques et d'autres internationaux championnats. C'est tout mon Indonésie.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
chers auditeurs, Cianjur a un surnom de ville aux mille cascades. L'une des célèbres cascades là-bas, à savoir la cascade Chitambur. L'attraction touristique de la cascade de Chitambur, située au village de Karangjaya, district de Pagelaran, à la région de Cianjur, Java de l'Ouest, peut vous surprendre en raison de sa beauté. Si généralement une cascade coule sur une falaise ou un rocher, cela promet une vue différente. Cette cascade de Chitambur est gérée par Perum Perhutani. La cascade de Chitambur coule d'une hauteur de falaise d'environ 100 mètres. L'écoulement comporte plusieurs étapes, mais il est dominé par les étapes les plus élevées qui ont le plus grand débit d'eau. L'emplacement de la cascade de Chitambur est flanqué de deux flancs de falaise décorés d'une superbe herbe verte. La cascade de Chitambur, on l'appelle comme un trésor caché, car la cascade derrière les falaises du Mont Lemo, qui s'étend de Ranchabali à Pasir Kuda, coule librement d'une hauteur et a un fort débit. Parce que les éclaboussures d'eau rapide peuvent être ressenties à une distance de 50 mètres autour de la cascade, l'air est froid et frais dans cette zone touristique. On peut avoir la meilleure vue au début de la saison des pluies. La surface du sol et des roches brunes pendant la saison sèche sont comme recouvertes d'un tapis vert naturel. Chers auditeurs, la cascade rapide est à l'origine de la dénomination de cette attraction touristique. Chitambur, qui se compose du mot chi, signifie l'eau, et tambour signifie un instrument de musique percussion. Le bruit de l'eau s'écrasant d'un courant vu au tombant d'une hauteur était comme le son d'un tambour frappé. Parce que le débit d'eau de cette cascade est assez lourd, les touristes ne doivent pas descendre tout droit car c'est trop dangereux. Mais n'inquiétez pas, car au bas de la cascade, il y a un lac qui se jette dans une rivière avec des rochers. Ici, les visiteurs peuvent jouer à l'eau et nager. Bien que la route pour aller à la cascade de Chitambur ne soit pas facile, la fatigue disparaîtra grâce à la belle vue sur la cascade de Chitambur. N'oubliez pas de capturer sa beauté. Ici, les gestionnaires fournissent également un endroit spécial qui permettra aux touristes de prendre plus facilement les meilleures photos. En tant qu'attraction touristique, les installations de cet endroit sont tout à fait adéquates. De plus, les visiteurs n'ont pas besoin d'avoir peur de la famine car il y a plusieurs étals et stands qui fournissent de la nourriture et des boissons.
Hatimu tak di sini lagi. pasti. Lemahku di gantung asmara, sirna dan perlahan padamkan bara hati. Tapi apa arti berlari bila ku berharap kau datang kembali? Namun sepertinya kau telah berpaling. Jadi percuma, buat apa mencoba? Kau tak cinta aku lagi. Semua jadi percuma, buat apa berjanji? Bila hatimu tak di sini lagi, semua jadi.
Of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Unirang a publié mercredi une liste des meilleures universités islamiques du monde en 2021 ou 2021 par la version Unirang des meilleures universités islamiques. L'université de Muhammadiyah Malang ou UMM à Jaffa de l'Est occupe la première place. En tant que meilleur campus islamique, l'UMM a battu l'université des sciences et de la technologie d'Iran et l'université du Caire d'Égypte aux deuxième et troisième places. La quatrième place est l'Université Muhammadiyah de Yogyakarta et la cinquième est l'Université Al-Qura d'Arabie Saoudite. Unirang est une institution de créateurs de classements d'enseignement supérieur international basée à Sydney en Australie. Chaque année, cette institution publie les résultats d'une enquête sur les meilleures universités du monde avec un indicateur d'évaluation basé sur une matrice web réalisée par Unirang. Citez sur le site officiel www.4isu.org la liste des meilleurs campus islamiques fait référence à trois facteurs, à savoir, tout d'abord, il est accrédité par l'organisation d'enseignement supérieur approprié dans chaque pays. Deuxièmement, il offre au moins un baccalauréat de 4 ans ou un diplôme de 3e cycle, maîtrise et doctorat. Troisièmement, il offre des cours principaux dans des formats d'enseignement traditionnels en face à face et à distance. Unirain a expliqué que la compilation de la liste des meilleures universités islamiques du monde a été réalisée basée sur des mesures web valides, impartiales et non affectées, fournies par des sources de renseignements web indépendantes des données soumises par les universités elles-mêmes. En outre, Unirain a également publié les 15 meilleures universités d'Indonésie en 2021 pour toutes les catégories, à la fois les universités publiques, privées et islamiques. Trois d'entre eux sont l'Université Gadjah Mada de Yogyakarta en première place, l'Université d'Indonésie de Depok, Java de l'Ouest en deuxième place, suivie de l'Université Diponegoro.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kau tak pernah berubah, kau masih saja dengan peran yang kau tak suka. Apa kata ayah, jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウンティカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒーコナーイヤハミーコムワコナーウコムヤハミーニ
ー让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan. dengan aku, karena aku tak mampu, tak mampu. Oh, I don't want to. Setiap saat kau di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu, tak mampu.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Cette édition, je parle d'une chanson de la belle chanteuse Aya Anjani. Elle est la fille du claviériste légendaire du groupe God Bless, Yoki Suryo Prayogo. Bien que son nom ne soit pas aussi célèbre que son père, Aya Anjani a réalisé de nombreuses œuvres. En 2019, Aya a repris une chanson à succès des années 1980 popularisée par Krisha. La chanson est intitulée Juita, qui a été écrite par son défunt père et Junaidi S. La chanson a été réarrangée en mémoire d'un an après le départ de Yoki en 2018. La chanson Juita a été chantée à nouveau par Aya avec une approche de production plus moderne sans changer l'arrangement et l'essence de la chanson originale. Les noms Petra Sihombing et Jonathan Mono ont également été choisis pour produire cette chanson. En plus d'être l'une des chansons chefs d'œuvre de l'Indonésie, elle a admis qu'à cette époque, elle aime vraiment des anciennes chansons au passé. Même avec des arrangements modernes, elle espère que la mémoire qui représente la génération à cette époque se fasse sentir. Elle souhaite que cette chanson puisse encore représenter chaque génération. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Juita, chantée par Aya Anjani. Bonne écoute!
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.